Vous écoutez RTL.
RTL 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. À la une, mobilisation nationale pour les quartiers. Emmanuel Macron en opération séduction à Tourcoing. Pour tenter de se défaire de l'étiquette de président des riches, le président a multiplié les annonces en faveur des banlieues, pérennisation des crédits pour 2018, emploi franc, mesures contre les discriminations à l'embauche, recrutement de policiers, plan contre la radicalisation. Mais il s'est aussi emporté contre ceux qui critiquent la réduction des emplois aidés, que ceux qui les défendent les prennent. Ils n'en voudraient pas pour eux-mêmes. Alors dans RTL Soir, on vous expliquera en détail ce plan Macron pour les villes. Dans la question d'actualité, on se demandera ce qui se faisait déjà avant et ce qui est vraiment nouveau pour lutter contre les discriminations à l'embauche. À 18h30, l'analyse d'Alain Duhamel. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Un premier revers pour les laboratoires Merck dans l'affaire du Levothyrox. Ils sont condamnés à fournir l'ancienne formule à une vingtaine de patients toulousains. 200 000 boîtes vont être importées. Tour de vis chez Castorama et Brico Dépôt. La comptabilité va être délocalisée en Pologne. Des centaines d'emplois sont menacés. La guerre du beurre n'aura plus lieu. Tous les acteurs de l'agroalimentaire ont signé une charte de bonne conduite, y compris Michel-Édouard Leclerc. À suivre également la crise au Liban, la France tente de reprendre la main. Et puis un match pour la gloire, les Bleus retrouvent l'Allemagne ce soir à Cologne. La Bourse de Paris, elle termine en baisse de 0,49% à 5 315 points. La dégringolade se poursuit pour l'action Altice. La maison mère de SFR perd près de 17% ce soir à la Bourse d'Amsterdam. Les courses à Bordeaux-le-Bouscat, il fallait jouer le 7, le 4, le 5, le 18 et le 2.
À 18h20, contre les ordonnances travail, Philippe Martinez appelle maintenant à la résistance dans les entreprises. Alors, anticipe-t-il en fait un nouveau bide de la prochaine manifestation prévue jeudi? Le secrétaire général de la CGT, premier invité d'RTL Soir. Puis direction les coulisses de l'actualité, le seul De Vinci au monde qui n'est pas dans un musée, mis aux enchères demain par le patron de l'AS Monaco. On va vous emmener en coulisses de la grande braderie de Dimitri Ribolovlev, acculé. À 18h35, une insoumise libérée. Après des mois de polémique, Raquel Garrido a tranché. La porte-flingue de Jean-Luc Mélenchon quitte la politique pour se consacrer 100% à la télé chez Ardisson. Raquel Garrido s'explique tout à l'heure sur RTL. 18h50, RTL Monde. Petit arrangement entre ennemis. Les soldats de Daesh et les libérateurs de Raqqa ont en fait signé un accord. Après 19h15, on refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Demain, un temps calme, mais frais.
Oui, un temps calme avec un ciel lumineux, après dissipation quand même de la grisaille matinale qui sera parfois assez dense, notamment dans le nord-est ou encore dans le Val-de-Saône. Et très localement, cette grisaille persistera toute la journée du côté de la région parisienne, sur le Grand Est, toujours dans le Val-de-Saône et sur le Lyonnais. Ailleurs, ce sera ensoleillé avec encore un petit peu d'instabilité sur la Corse, quelques averses et un petit peu de pluie au nord de la Seine avec des températures encore froides demain matin. On aura des gelées entre le sud-ouest, le massif central et le Grand Est. Moins 3 degrés par exemple à Aurillac, moins 1 degré à Mulhouse, 0 degré seulement à Toulouse. Et dans l'après-midi, température de saison avec 7 à Strasbourg, 9 à Bourges, 11 à Paris comme à Lille et Bordeaux et 18 à Nice.
Merci Patricia.
RTL Soir.
Allez, avant de développer tous ces titres, la fin d'un mystère vieux de 80 ans, Isabelle.
Une histoire surréaliste, forcément, puisqu'elle concerne un tableau de Magritte. La pose enchantée qui représente deux femmes nues appuyées sur des colonnes avait disparu de la circulation en 1932. Cette toile découpée en quatre parties était éparpillée à travers le monde. Depuis 2013, trois morceaux avaient refait surface et le quatrième vient tout juste d'être retrouvé. À Bruxelles pour RTL, Laureline Merel.
C'est millimètre par millimètre que les chercheurs belges ont sondé la collection du musée Magritte à Bruxelles avant de tomber sur le poteau rose. Ils l'ont fait avec différents outils de recherche, la radioscopie, la fluorescence par rayon X, des méthodes non-invasives qui ont permis de trouver le dernier fragment derrière une autre peinture du peintre. Dieu n'est pas un saint. L'idée est maintenant de poursuivre les recherches, comme nous l'explique Catherine Defay, chercheuse à l'Université de Liège.
On continue nos examens et analyses physico-chimiques sur l'ensemble de la collection Magritte pour pouvoir justement avoir un overview, si vous voulez, de l'ensemble de la pratique artistique, du processus créatif, des matériaux et techniques, des gestes du peintre.
Il reste maintenant l'espoir que la pose enchantée puisse être exposée en entier en mettant côte à côte ces quatre parties, une idée qui demanderait une coopération entre les musées détenteurs des tableaux.
À Bruxelles pour RTL, Laureline Merel donc. Suite et fin de la séquence banlieue d'Emmanuel Macron à Tourcoing donc. Ce matin, le président a lancé un appel à la mobilisation nationale.
Avoir une belle vie et une belle ville, ce n'est pas un luxe, ça ne doit pas être réservé réservée aux plus fortunés. Voilà ce qu'a lancé le chef de l'État pour son premier discours sur la politique de la ville. Olivier Bost, vous suivez ce déplacement pour RTL. Bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Emmanuel Macron a profité de l'occasion pour répondre à tous ses détracteurs.
Ah oui, Emmanuel Macron goûte peu la critique et encore moins quand il entend matin, midi et soir qu'il serait trop à droite. Alors après 24 heures en banlieue, l'expression « le président des riches », il ne veut plus l'entendre.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, avoir une politique pour les riches. Je sais simplement que quand il n'y a pas une économie qui tire tout le pays en avant, quand il n'y a pas des entrepreneurs qui réussissent, les quartiers les plus en difficulté se portent pas bien.
C'est toujours la théorie des premiers de cordée. Dans la même veine, tous les élus de terrain, de droite comme de gauche, qui critiquent la suppression d'emplois aidés, ont eu le droit à une réplique cinglante du président.
Qui veut un contrat aidé ? Que ceux qui les défendent les prennent ! Que tous ceux qui, la main sur le cœur, se font les grands défenseurs des quartiers les plus en difficulté, viennent m'expliquer que les contrats aidés, c'est la solution dont on a toujours rêvé. Mais qu'ils les prennent, les contrats aidés, ils n'en voudraient pas pour eux-mêmes.
Et aux emplois aidés, Emmanuel Macron préfère les emplois francs de 5 000 à 15 000 euros d'aide directe pour les entreprises qui embaucheront justement dans les quartiers.
Cela dit, Olivier, Emmanuel Macron a annoncé d'autres mesures pour les cités.
Oui, même s'il se défend d'être venu avec ses solutions et ses outils pour la banlieue, Emmanuel Macron a bien fait quelques promesses. Contre les discriminations, par exemple, il va demander aux inspecteurs du travail de faire du testing. Les entreprises qui refusent systématiquement d'embaucher dans les quartiers difficiles seront brocardées publiquement. Mais la principale idée d'Emmanuel Macron, c'est le retour des services publics, postes, transports, écoles, crèches, police. Les citoyens qui habitent les banlieues pauvres doivent avoir les mêmes services que tout le monde. Pour le chef de l'État, c'est comme ça. C'est ça qu'on peut éviter, notamment les phénomènes de radicalisation.
Cette radicalisation, elle s'est installée parce que la République a démissionné. Parce que nous avons, dans des quartiers, fermé des écoles, supprimé de l'aide pour les plus âgés ou les plus jeunes, et que des associations sont arrivées, des représentants d'une religion déformée, qui porte la haine et le repli, apporter les solutions que la République n'apportait plus.
Le retour de la République dans les quartiers, c'est la plus grande promesse d'Emmanuel Macron.
À Tourcoing pour RTL, Olivier Bost.
Et notez que le président a reçu un soutien de poids, celui de Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville. Il remet les gants, a dit Emmanuel Macron.
Et c'est la première décision de justice dans l'affaire du Levothyrox. Les laboratoires Merck sont condamnés à fournir l'ancienne formule.
Des patients de Haute-Garonne avaient saisi le tribunal de Toulouse en référé. Comme des milliers d'autres, ils souffrent des effets secondaires liés à la nouvelle formule du médicament pour la thyroïde. Et ils ont gagné. Merck doit leur donner l'ancienne version sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour. Patrick Tégéraud, vous êtes à Toulouse pour RTL, c'est que ça pourrait vite coûter cher.
Eh oui, car muni de leurs ordonnances précisant que l'Eurothyrox, l'ancienne formule du Levothyrox, leur est indispensable, les 25 plaignants toulousains vont se rendre dans leur pharmacie et s'il est impossible de leur fournir leurs médicaments sous 48 heures, le laboratoire devra verser 10 000 euros et 10 000 autres par jour de retard supplémentaire. Alors vous vous souvenez, la semaine dernière, pour en avoir le cœur net, le juge des référés s'était lui-même rendu dans une pharmacie pour constater l'absence de stock d'Eurothyrox, un médicament qui est pourtant diffusé dans tous les pays frontaliers, ce qui amène les malades d'ailleurs à se rendre à l'étranger pour s'approvisionner. Alors, ils étaient 98 plaignants à l'audience et seuls 25 d'entre eux ont obtenu raison, tout simplement parce que ces 25 résident dans le ressort du tribunal de grande instance de Toulouse. Les 73 autres vont entamer la même démarche devant les tribunaux concernés par leur lieu de résidence et au-delà, plus de 700 personnes se sont manifestées auprès du collectif des victimes de Toulouse. Mais on estime à plus de 10 000 le nombre de patients qui ont souffert de la nouvelle formulation de leurs médicaments. Le laboratoire Merck a désormais tout intérêt à créer un stock d'Eurothyrox en France et à le mettre à la disposition des grossistes au plus tôt.
À Toulouse pour RTL, donc Patrick Tégéraud.
RTL soir, 18h08.
Une pause et dans un instant, Castorama qui délocalise et qui dégraisse.
RTL soir. RTL soir 18h10, Marc-Olivier Fogiel et pour la suite du journal Isabelle Choquet.
Et ce n'est pas le plombier polonais mais le bricoleur polonais qui vient de frapper. Des centaines de postes sont menacés chez Castorama et chez Brico Dépôt.
Le groupe britannique Kingfisher qui possède ces deux marques a décidé de délocaliser les activités de comptabilité à Cracovie. Franck Hanson, vous êtes au siège de Castorama à Templemar dans le Nord et pour l'instant la direction est plus que discrète. Pour les salariés bien sûr la nouvelle est particulièrement brutale.
Oui en effet l'annonce est d'autant plus brutale pour ces salariés qu'ils l'ont appris dans une vidéo de leur directrice s'exprimant en anglais. Cette réorganisation menace directement plusieurs centaines de postes au siège de l'enseigne de bricolage. Des méthodes low cost injustifiées, selon Lydie Bourdet de la CFE-CGC.
C'est l'aspect humain qui nous désole. De toute façon, les postes ne seront, semble-t-il, pas proposés aux salariés en Pologne. On comprend bien le motif économique dans le sens rentabilité, mais on sacrifie les emplois, on sacrifie les salariés.
Des employés qui se sentent dans le flou avec comme seul soutien des groupes de parole mis en place par la direction. Véronique est comptable depuis 15 ans chez Casto.
C'est l'effet d'une bombe, les gens sont surpris, choqués, désarroi chez tout le monde, des pleurs. Des reclassements en magasin, c'est un peu improbable pour nous, puisque reclassement en magasin, ça veut dire vendeur, et on n'a pas du tout le profil d'un vendeur. Il y a des couples Casto, donc ça détruit complètement le couple, donc eux, ils perdent leur emploi tous les deux. Puis on peut dire à la compta, on est les petits salaires de Casto, on est les employés, donc ça crée pas mal de drames en fait.
Réponse du groupe britannique Kingfisher cet après-midi. Pour que plus de gens améliorent leur maison, il faut leur offrir des solutions abordables en réduisant les coûts. Les modalités d'évolution des équipes concernées restent encore à définir.
Dans le Nord, pour RTL, Franck Hanson. L'âge de guerre est enterré. Toute la filière agroalimentaire s'est réconciliée cet après-midi autour d'une charte pour des négociations commerciales loyales.
Les agriculteurs, les industriels et la grande distribution se sont entendus pour que les produits alimentaires soient payés au juste prix. Alors le texte n'est pas contraignant, mais le ministre de l'Agriculture parle d'un accord historique car tous les acteurs ont signé, y compris Michel-Édouard Leclerc. Cela dit, ce n'est pas l'entente cordiale à tous les étages. Le patron des hypermarchés a été interpellé par la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert.
Ça nous engage dans la négociation commerciale, ça nous engage dans la manière de construire un prix, ça nous engage d'aller chercher des labels, d'aller chercher des allégations de qualité.
C'est très intéressant d'entendre Michel-Édouard Leclerc ici dans cette salle dire qu'il faut faire la montée en gamme. La France se distingue par son alimentation de qualité, mais se distingue aussi par des prix toujours tirés vers le bas dont on sait où est la responsabilité. Vous avez une énorme responsabilité en tant que leader de la distribution française.
Et pourquoi vous avez besoin de moi? Pourquoi, au moment où vous nous demandez le consensus, vous repartez sur un tour à focaliser comme ça sur un mouton noir
vous,
qui tirait le prix du marché vers le bas? On en oublie tous les éléments de rémunération.
On vit dans le même pays, on voit depuis des années ce qui se passe, mais je note que vous êtes là, c'est bien. Que vous êtes le dernier arrivé, c'est bien. Et merci d'avoir signé.
Échange recueilli par Jacques Serret pour RTL.
En perquisition ce matin au siège de Lafarge à Paris, le cimentier français est soupçonné d'avoir indirectement financé l'État islamique en Syrie en achetant notamment le droit de poursuivre ses activités.
Et face à la crise au Liban, la France ce soir tente de prendre la main.
Le chef du gouvernement libanais Saad Hariri est toujours retenu en Arabie Saoudite. C'est de là qu'il a annoncé sa démission surprise sur fond de tensions entre Riyad et Téhéran. Emmanuel Macron a reçu cet après-midi le ministre libanais des Affaires étrangères, Béatrice Adjage.
Dans un tweet écrit depuis Riyad cet après-midi, le Premier ministre libanais annonce qu'il reviendra au Liban d'ici deux jours, mais sans sa famille qui, elle, restera en Arabie Saoudite. Ce qui inquiète les Libanais. Et leur ministre des Affaires étrangères vient de faire un stop à Paris pour en discuter avec Emmanuel Macron.
Maintenant, il est dans une situation qui est ambiguë et qui n'est pas normale. Alors nous, on veut revenir à la situation normale.
Alors aucun diplomate n'ose prononcer le mot, mais Saad Hariri, en fait, est pris en otage à Riyad. Vu la fragilité politique du Liban, cela inquiète aussi la France. Pourquoi le prince héritier d'Arabie Saoudite agit-il ainsi? Pour intimider l'Iran, son grand rival? Pour faire taire son opposition interne? 200 responsables saoudiens viennent d'être placés en résidence surveillée. Voici les éléments du puzzle. Impossible à cette heure de les mettre en cohérence.
Merci Béatrice Adjadj. Et puis le foot, les Bleus retrouvent l'Allemagne ce soir sur la route du Mondial 2018.
Match amical à Cologne à 20h45, pas d'enjeu donc, peu importe le résultat, mais en termes d'image, c'est une rencontre essentielle. Philippe Sansfourche, vous êtes en Allemagne pour RTL, plusieurs joueurs jouent gros ce soir.
Oui, même s'il reste 7 mois avant la Coupe du Monde, il n'y aura qu'un rassemblement en mars avant la fameuse liste des 23. Et tout sera quasiment joué, autant dire que c'est maintenant que les dernières places se gagnent, comme pour l'attaquant d'Arsenal, ancien Lyonnais Alexandre Lacazette, titulaire ce soir. Il joue à qui tout double pour convaincre Didier Deschamps.
À lui de faire le maximum. Le niveau international demande des exigences encore plus élevées. Il peut mieux faire. Il le sait.
Dans un stade de Cologne où sont attendus plus de 2000 supporters français, un record en amical et surtout en pleine semaine. Sylvie et Julien ont quitté Valenciennes tôt ce matin pour soutenir les Bleus.
Voilà, c'est ça, on représente notre pays. Même en Allemagne, on est là et on est plus de 2000, donc c'est quand même beau.
On vient faire la fête aussi.
On part avec un bus, donc on est parti à 8h au matin. On rentre vers 3-4h du matin, on va dire.
Long déplacement, mais qui vaut le coup pour voir évoluer ces champions du monde allemands invaincus depuis maintenant 20 matchs. C'était à l'Euro 2016. Et c'était face à la France en demi-finale.
Merci Philippe Sansfourche. À tout à l'heure Isabelle.
À tout à l'heure.
Les clés pour bien comprendre l'actualité. Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, part en guerre contre les discriminations à l'embauche. Parmi les annonces, le développement du testing et une mise à l'index des mauvais élèves, le fameux name and shame. Mais les mesures annoncées par le président sont-elles du recyclage? En fait, qu'est-ce qui se faisait déjà, Christophe Ponzio?
Alors d'abord, oui, hein, c'est du recyclage et qui ne remonte pas bien loin. Pour le testing, c'était l'an dernier. Pour la première fois, 40 entreprises de plus de 1000 salariés ont reçu massivement de faux CV. Les compétences des candidats fictifs étaient les mêmes, mais avec des noms ou des adresses différents pour voir s'il y avait discrimination. Réponse oui, pour 12 des 40 entreprises évaluées, deux ont même été si mauvaises qu'elles ont été pointées du doigt publiquement, le fameux name and shame, les restaurants Courte Paille et la chaîne Accor Hôtel.
Et depuis ces actions, plus rien, Christophe ?
Ben non, les campagnes publiques de testing sont terminées, d'où leur relance par Emmanuel Macron. En revanche, les entreprises peuvent très bien s'auto-tester pour lutter contre ces discriminations à l'embauche. Ça se fait déjà dans le groupe, par exemple, de distribution Casino, qui était pionnier, mais aussi chez le leader du luxe LVMH ou le chimiste Solvay.
Merci Christophe Ponzio.
RTL soir, 18h17.
Et avant la manif de jeudi, la CGT appelle aujourd'hui à la contestation en entreprise. Dernière carte avant de reconnaître son échec dans la réforme du Code du Travail. On va voir ce qu'en dit Philippe Martinez, premier invité d'RTL Soir.
RTL Soir.
Vous écoutez RTL.